Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir à tous. Dure semaine à l'école, le grand bazar, des tests tous les deux jours, des classes qui se vident, de parents et d'enseignants à bout. La majorité des syndicats du primaire et du secondaire appellent à une grève le 13 janvier, jeudi prochain, intersyndical en ce moment même, on va y revenir. L'épidémie de Covid encore, Emmanuel Macron assume ses propos sur les non-vaccinés. Cette étude américaine, il y a un lien entre vaccin et cycle menstruel, mais il est minime. Et puis l'actualité, c'est aussi les tarifs des mutuelles qui augmentent, le groupe Wagner qui se déploie au Mali, et puis la mort du premier comédien noir à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur, Sidney Poitier. Il avait 94 ans. Et au téléphone sonne, Frédéric.
Question sur le procès des attentats du 13 novembre. Nous sommes à mi-parcours de ce procès qui s'est ouvert le 8 septembre dernier. Ce soir, on fait le point sur l'avancement des audiences, sur ce qui a été examiné ou sur ce qui va l'être. Appelez-nous pour poser vos questions et nous dire tout simplement comment vous suivez le procès. Le standard est ouvert 01 45 24 7000.
France Inter. L'école est donc restée ouverte, mais à quel prix? 5 jours après la rentrée, la grande majorité des syndicats appellent à la grève ce soir, de la maternelle au lycée, jeudi prochain, parce que la situation, disent-ils, est ingérable depuis lundi. Le virus circule dans tous les établissements et le nouveau protocole met tout le monde à cran. Les équipes, on va y revenir, mais aussi les familles. Mathilde Hémy, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes allée dans le 15e arrondissement de Paris, autour de l'école de la rue Lucernaire, et les parents avaient bien besoin de vider leur sac.
Eh oui, et quand ils résument leur semaine?
Oui, c'est très dur, c'est très compliqué.
Bah, c'est une semaine un petit peu compliquée.
On fait avec.
L'expression est polie, presque polissée, mais l'on sent poindre l'épuisement et l'énervement. Ceux qui ont pu déposer leur enfant tous les jours soufflent. Même pour eux, la semaine a été différente.
On est obligé de vivre au jour le jour, savoir à chaque fois où j'ai la chance. Oui, parce que je me mets à la place des autres parents, c'est pas facile.
Michel, lui, a récupéré des devoirs pour ce week-end.
Pour ma fille qui est au CP, samedi, je dois lui faire un autotest. Ma fille qui est en maternelle, je vais lui faire un autotest le dimanche.
Deux fois cette semaine, il a dû venir en urgence récupérer ses filles. Et quand il apprend que jeudi prochain, les enseignants sont appelés à faire grève...
Oui, moi je les comprends. Il y a des moments où le professeur de ma fille n'est pas là. Il n'y a pas de remplacement. On est prévenu à la dernière minute. Quand il y a de la désorganisation, les choses ne sont pas bien faites. Il faut bien qu'eux, ils se défendent.
Soutien aussi de Claire qui a passé sa semaine dans les queues des pharmacies pour son fils qui a raté 2 jours d'école.
Presque tous les jours, il est cas contact. À l'école, on nous envoie à la pharmacie de chercher des autotests qui sont fournis par l'État, mais les pharmaciens disent qu'ils n'ont pas reçu le décret. Du coup, il faut acheter les autotests de 26 euros.
Cette semaine, elle a pris des jours car elle ne peut pas télétravailler. Elle a compté aussi sur la solidarité entre parents, mais ça ne tiendra pas éternellement, dit-elle.
On l'a entendu avec vous, Mathilde. Le gouvernement a fait le pari de laisser le virus circuler à l'école, mais pour beaucoup, ça ressemble à un grand chaos. Des classes qui se vident, des cours en pointillés, des personnels qui s'épuisent. Bonsoir Kathleen Comte.
Bonsoir.
Alors avec vous, on va essayer de se faire une idée de la situation au niveau national. Il y a bien les chiffres qui nous ont été donnés hier par le ministère. Plus de 9000 classes fermées, au plus haut depuis le printemps. Et puis, c'est 47 000 cas positifs chez les élèves. Ça pourrait bien être assez sous-estimé, Kathleen.
Alors, du côté du ministère de l'Éducation nationale, pas de changement. Les chiffres que vous venez de donner sont maintenus. Pour les avoir, le ministère se base sur les remontées qu'il a des différents rectorats. Et les rectorats se basent, eux, sur les remontées qu'ils ont des directeurs d'établissement. Encore faut-il que les directeurs aient toutes les informations de la part des parents, notamment, ou bien qu'ils aient le temps d'aller les chercher. Mais dans ce contexte, autant vous dire qu'ils ont déjà beaucoup à faire. Plusieurs syndicats s'accordent donc pour dire que oui, les chiffres sont sous-estimés. Stéphane Crochet, secrétaire général SE-UNSA, syndicat du primaire et du secondaire.
Sur le nombre de personnels positifs, on pense qu'ils sont sous-estimés parce que nos remontées nous disent que plus personne n'a le temps de signaler, de compléter des tableaux, donc on pense qu'on est en dessous de la réalité. Et concernant les classes fermées, on peut penser qu'un certain nombre d'autres sont suspendus et pas fermés dans l'attente de résultats de tests ou parce que l'enseignant est absent.
500 classes fermées depuis le début de la semaine à cause du Covid, d'après nos confrères de France Bleu Normandie. 600 dans l'académie de Strasbourg, selon France Bleu Alsace. Mais pour le SGEN, CFDT, syndicat du primaire et du secondaire, la vraie question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas celle des chiffres, c'est de savoir si une classe maintenue ouverte avec seulement une poignée d'élèves permet un réel suivi pédagogique.
Le ministère va-t-il revoir le protocole d'ici à la grève de jeudi vendredi prochain. Le SNES-FSU est faux Sud Éducation. On rejoint le mouvement ce soir initié par le SNUIPP et SEUNSA cet après-midi. Petite souplesse accordée déjà. On ne demandera plus aux élèves pas plus de 3 tests en 7 jours, même si un nouveau cas de Covid se déclare. Ces 7 derniers jours, un Français sur 50 a été testé positif et la pression hospitalière s'accentue encore sous la barre des 4000 personnes en réanimation, mais plus de 21 000 malades sont hospitalisés. La tranche 20-29 ans la plus touchée, mais le taux d'incidence a aussi explosé de plus de 200% chez les 80-89 ans plus fragiles. Un peu plus de 5 millions de Français ne se sont pas fait vacciner pour diverses raisons, on le sait. Et bien voici une étude rassurante sur une crainte qui a enflammé les réseaux sociaux il y a quelque temps, l'impact du vaccin sur les règles des femmes. Des scientifiques américains se sont penchés sur la question et leur conclusion, il y a un lien possible, mais aucune raison de s'inquiéter, Véronique Julia.
Juste après avoir reçu un vaccin, le cycle menstruel, l'intervalle qui sépare deux périodes de règles, est rallongé de moins d'une journée. Effet non grave et temporaire, conclut cette étude menée sur 4000 femmes de 18 à 45 ans aux États-Unis. Vaccinés ou pas, et n'utilisant pas de contraception. La durée même des règles n'est pas affectée. Résultat très rassurant pour les chercheurs qui rappellent que si un cycle s'étend en moyenne sur 28 jours, tout changement inférieur à 8 jours est considéré comme normal dans la profession. On sait depuis longtemps qu'un stress, par exemple, peut engendrer de légères modifications. Le vaccin peut faire la même chose sans que ce soit pour autant préoccupant. Le professeur Olivier Picone est gynécologue obstétricien. Il préside le groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse.
C'est un mécanisme très complexe, il ne faut pas grand-chose pour le dérégler. Et quand il y a un vaccin, il y a une réaction inflammatoire qui est produite et que ça peut parfois perturber. Et des patientes qui ont une infection en dehors du vaccin, quelle que soit l'infection, peuvent avoir des perturbations des règles. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça met des chiffres sur cette plainte qui avait fait un petit peu de bruit à une époque. Ça rentre rapidement dans l'ordre et c'est parfaitement rassurant, ce qui était attendu.
À l'hôpital, le médecin avait déjà pu constater que les petits dérèglements, quand il y en a eu, n'ont jamais dépassé 1, 2 ou 3 cycles. Beaucoup de femmes redoutaient un éventuel impact aussi sur leur fertilité. Nous n'avons aucun argument, dit-il, pour être inquiet là-dessus.
Une étude à retrouver en détail sur franceinter.fr. L'épidémie au Pérou, elle a rendu près de 100 000 enfants orphelins. Triste record. Là-bas, le gouvernement va les prendre en charge financièrement et psychologiquement. Amanda Chaparro est à Lima.
Au Pérou, un enfant sur 100 a perdu un parent du Covid, selon une étude de la revue médicale britannique The Lancet, soit près de 100 000 enfants, ce qui fait du pays celui au triste record du plus grand nombre d'orphelins de l'épidémie. En réaction, le gouvernement a déposé un projet de loi au Parlement pour élargir la pension Covid à un plus grand nombre d'enfants. Cette aide représente l'équivalent de $50 par enfant. Pas de quoi assurer toutes les dépenses d'un foyer, mais un appui bienvenu, notamment pour les achats alimentaires. Jusqu'à présent, l'aide a été versée à seulement 17 000 enfants depuis le mois d'avril 2020, mais devrait prochainement concerner plus de 80 000 orphelins grâce à ce projet de loi qui devra annuler un obstacle majeur à son attribution, a indiqué mercredi soir la ministre des Femmes, Anaïs Durand.
Beaucoup de familles viennent nous chercher pour accéder à cette pension, mais ils n'ont pas le certificat de décès pour Covid. Car pendant la première et seconde vague, les gens mouraient à leur domicile. Il n'était pas possible d'émettre un certificat et cela empêche que l'aide soit versée à de nombreux enfants.
Cette aide sera couplée à un accompagnement psychologique et éducatif pour les enfants orphelins, tandis que le pays affronte sa troisième vague et les écoles sont toujours fermées depuis le début de la pandémie en mars 2020.
Amanda Chaparro, ça a été l'expression de la semaine, hein, sans aucun doute familière pour certains, insultante pour d'autres. Et Emmanuel Macron l'a assumé aujourd'hui sur le fond, moins sur la forme. Il n'a pas répété les mots « emmerder les non-vaccinés », mais il a pointé du doigt les réfractaires à la vaccination qui, a-t-il dit, font de leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan. Et puis en bref encore, un début de soirée très compliqué, hein, gare Saint-Lazare à Paris. La gare a été entièrement évacuée à cause d'un bagage oublié, tout le trafic interrompu. Il commence tout juste à reprendre.
Il est 19h09, la suite du journal d'Hélène Philly. Et au Mali, la présence des mercenaires du groupe Wagner semble bel et bien s'étendre.
Ces mercenaires russes dont l'action et l'influence inquiètent la communauté internationale dont on ne connaît pas exactement le lien avec le Kremlin. Les autorités maliennes continuent de nier tout contrat avec les Wagner, mais leur déploiement semble pourtant se confirmer, Claude Guibal.
À en croire les autorités maliennes, les hommes russes en uniforme déployés à Tombouctou seraient des formateurs pour l'armée malienne, des militaires de troupes régulières russes présents pour assurer la prise en main des achats de matériel et d'équipements militaires faits auprès de Moscou. Leur nombre n'a pas été précisé et pas un mot de Wagner, la société de mercenaires russes qui a déjà de cette même façon infiltré et pris en main toute la sécurité en Centrafrique. Sur place, au moins l'un des hommes de Wagner, peut-être deux, a pourtant été tué selon des sources vérifiées par plusieurs médias dont Le Monde et France 24 en début de semaine lors de l'attaque d'un convoi de militaires maliens près de Mopti. Des études menées sur des rotations aériennes entre Moscou et Bamako confirment l'arrivée de 300 à 400 personnes sans que l'on sache avec précision quelle proportion appartient à la milice privée ou à l'armée russe. Seule certitude, leur déploiement désormais à travers le pays jusqu'à Tombouctou, quitté en décembre par l'armée française.
Près de 9 mois après l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois au Mali, sa famille réclame des réponses. Elle vient de mettre en ligne une pétition pour interpeller les autorités françaises et maliennes. Au Kazakhstan, les autorités semblent avoir étouffé les émeutes. Le président, ce matin, autorisant les forces de sécurité à tirer pour tuer s'il le fallait. Il exclut de négocier avec les manifestants dont la contestation, partie d'une colère sur les prix du gaz, est devenue plus politique au fil de la semaine. Et puis en Arabie Saoudite, pas question d'arrêter le Dakar. Pour l'instant, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait pourtant ouvertement posé la question ce matin après l'explosion d'une voiture d'assistance jeudi dernier, peut-être liée à un attentat terroriste. Une enquête a en tout cas été ouverte en ce sens. Le pilote de la voiture, le français Philippe Boutron, est grièvement blessé aux jambes. Mais pour le patron du Dakar, donc, on ne change rien, Winnie Claret.
Pour David Castera, la priorité n'est clairement pas d'arrêter la course dans le désert saoudien.
La vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 30 ? Et c'est à celle-là qu'on doit répondre aujourd'hui, pour la famille de Philippe, pour Philippe lui-même.
Rapatrié en région parisienne en début de semaine, Philippe Boutron est sorti du coma. Il est grièvement blessé aux jambes. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire et des enquêteurs français sont sur place, selon Jean-Yves Le Drian. L'Arabie Saoudite, où sont aussi prévues les deux prochaines éditions du Dakar. Alors évidemment, le directeur du rallye déplore cette affaire.
C'est beaucoup de tristesse. Je veux dire, on organise aujourd'hui du sport, on est là pour se faire plaisir, pour vivre des passions et pas du tout pour être victime d'un attentat si c'en est un.
En attendant, la course se poursuit et les participants sont en sécurité selon l'organisateur.
Aujourd'hui, nous avons mis en place beaucoup de mesures de sécurité supplémentaires grâce aux autorités saoudiennes. On peut le voir d'ailleurs très facilement dans le bivouac, autour du bivouac, sur les départs, les arrivées, pour garder en tout cas une sécurité optimale.
Les plus de 700 pilotes engagés au Dakar ne boucleront le parcours que vendredi prochain.
Un reportage signé Winnie Claret. Jamais le solde commercial français n'est tombé aussi bas en un mois. Il s'est creusé pour atteindre 9 milliards d'euros en novembre, un trou deux fois plus gros qu'en début d'année, parce que la France a beaucoup importé, beaucoup plus que d'habitude, de matières premières énergétiques notamment, qui coûtent plus cher, on le sait, en ce moment.
Et à 19h13, une nouvelle hausse des prix qui va se ressentir dans le budget des Français.
Celui des tarifs des mutuelles. Et c'est la mutualité française qui prend les devants sur la traditionnelle enquête de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, parce que le sujet est sensible. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Cela donne une hausse moyenne de 3,4%.
Oui, cette hausse, certains Français la subiront plus que d'autres. Pour les moins vernis, ça pourra même monter jusqu'à 6%, augmentation qui a de quoi surprendre de prime abord. Si l'on se souvient qu'en octobre dernier, Olivier Véran, ministre de la Santé, et Olivier Dussopt, ministre des Comptes Publics, avaient écrit aux complémentaires pour qu'elles restituent à leurs adhérents les économies réalisées durant la crise sanitaire. Pas si simple, réponse ce soir Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité française.
Certes, avec les confinements, les Français se sont moins déplacés chez leurs médecins, mais ils ont rattrapé ces soins en 2021. Et donc au final, les dépenses ont bien augmenté de 6%. Olivier Dussopt et Olivier Véran avaient effectivement écrit aux fédérations. Et aucune mutuelle ne peut se sentir engagée par une demande des ministres dans la mesure où elles sont tenues d'équilibrer leurs comptes.
Les mutuelles qui invoquent tour à tour une taxe Covid d'1,5 milliard d'euros imposée au cœur de la pandémie pour soutenir l'assurance maladie, mais aussi la croissance continue des dépenses de santé, la réforme par exemple du 100% santé qui permet d'obtenir dans certains cas le remboursement des lunettes, des appareils auditifs ou encore des prothèses dentaires. Ajoutez à cela le remboursement dans certaines limites, c'est vrai, depuis peu des séances de psychologue pour la mutualité française. Cela montre bien que les mutuelles ont répondu présent durant la crise.
Maxime Depp, c'est au rayon écho encore la CFDT très critique vis-à-vis des ordonnances Macron de 2017 et de la fusion des instances du personnel en entreprise. Elle n'a rien amené de bon, tacle le premier syndicat du privé. Les représentants du personnel ont perdu en proximité, les moyens ont diminué, les nouveaux CSE devenus trop souvent chambres d'enregistrement des décisions de l'employeur aux yeux de la CFDT. Bientôt 20 ans que la jeune Estelle Mouzin a disparu. Une marche silencieuse aura lieu demain à Guermantes, en Seine-et-Marne, autour de la famille qui, toutes ces années, est restée mobilisée. Le père de la fillette, 9 ans à l'époque, vient d'ailleurs d'écrire au garde des Sceaux pour dire son inquiétude du départ de la juge d'instruction qui a relancé l'affaire en 2019. Quelques mois plus tard, le tueur en série Michel Fourniret avait fini par avouer être responsable de la mort de l'enfant. Transférer le dossier à une nouvelle équipe, c'est le risque de perdre des informations et du temps pour Éric Mouzin.
On a constaté qu'à chaque fois qu'on changeait de juge, il y avait une déperdition considérable d'informations, des problèmes de transmission. Alors bien sûr, le dossier aujourd'hui est maintenant, je crois, structuré parfaitement et suivi de façon très minutieuse par Madame Kéris et par sa greffière. Mais justement, leur départ est une grande source d'inquiétude. Nous sommes près du but, sans savoir si nous allons l'atteindre. Le principal objectif aujourd'hui, c'est de retrouver Estelle. Madame Kéris a engagé 8 campagnes de fouilles, qui, je crois qu'il y avait une détermination de tous les intervenants extraordinaire. Monique Olivier ne voulait parler qu'à Madame Kéris. Je ne veux pas faire de comparaison. Et de dire que seule Madame Kéris peut résoudre le dossier d'Estelle, mais elle a montré une telle détermination que on ne pouvait que lui rendre hommage.
Éric Mouzin au micro France Info de Marie Bernardeau. Ce 7 janvier est aussi journée hommage aux victimes de la tuerie de Charlie Hebdo et de l'hypercacher 6 ans après l'attaque. 3 cérémonies aujourd'hui à Paris. Ne les oublions jamais, a tweeté la maire de la capitale Anne Hidalgo. Et puis en bref, un médecin de 40 ans a été mis en examen au Mans, accusé du meurtre de 2 de ses patients en soins palliatifs. Il leur aurait donné des doses létales de produits anesthésiques sans consulter leur famille ni l'équipe médicale. L'enquête avait été ouverte après le signalement du Conseil de l'Ordre des médecins de la Sarthe.
Un acteur de légende qui vient de nous quitter.
Mondialement connu pour ses rôles dans Devine qui vient dîner et dans La chaleur de la nuit, Sidney Poitier est mort aujourd'hui à 94 ans. Bonsoir Alexis Demeyer.
Bonsoir Hélène.
C'est aussi le premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur en 1964.
Oui, pour la comédie dramatique Le Lys des Champs.
It is a long journey to this moment. All I can say is a very special thank you.
Voilà, Sidney Poitier est très ému. Il avait d'ailleurs été nommé une première fois à l'Oscar du meilleur acteur en 1959 pour La Chaîne, un film d'évasion qui lui valut tout de même le prix d'interprétation au Festival de Berlin. C'est à cette époque, celle des 60s, que le comédien enchaîne ses plus beaux succès que vous avez cités, Hélène, le polar Dans la chaleur de la nuit, puis la comédie Devine qui vient dîner, dont on a entendu la bande originale. En 72, Sidney Poitier devient réalisateur. Il tournera une dizaine de films jusqu'en 90. Anobli par la reine d'Angleterre, Sir Sidney Poitier devint ensuite ambassadeur des Bahamas au Japon. Il est en effet descendant d'esclaves bahaméens dont la plantation appartenait à un certain Charles Poitier. 7 à 15 ans que le jeune Sidney est monté à New York pour faire la plonge et se payer des cours à l'Actor Studio. Puis ce sont les débuts sur les planches de Broadway et un premier rôle à Hollywood dans le bien nommé La porte s'ouvre de Mankiewicz. Car Sidney Poitier, fervent militant des droits civiques, aura bien été un pionnier, ouvrant donc la porte à Morgan Freeman, Samuel Lee Jackson et autres Denzel Washington, qui ont tout de même dû attendre à la fin des années 80 pour avoir à leur tour leur nom en haut de l'affiche.
Merci Alexis Demeyer. Sidney Poitier avait 94 ans, une allure incomparable. Ils ont de l'allure aussi, hein. Loïc Frapsos, Louis Hedberg et Arnaud Caillet qui ont réalisé toute la semaine les journaux. Merci à eux.
Le journal d'Hélène Philly. Merci Hélène. Le temps pour demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Moselle et Meurthe-et-Moselle en vigilance orange neige.
Oui, ce soir et cette nuit, un temps perturbé s'enfonce sur le pays et sur le nord-est. Les chutes de neige peuvent se produire jusqu'en plaine. Elles sont parfois marquées près des frontières du nord. On attend 3 à 7 cm, parfois 10 d'ici demain matin sur une partie de la Lorraine. Une vigilance orange est donc en cours. Demain matin, ce sera gris, parfois pluvieux quasiment partout. Et il neigera encore à basse altitude sur les massifs de l'est.
Et une nouvelle dégradation, Élodie, gagnera le nord-ouest.
Et oui, ça se gâtera du nord-ouest au nord de la Seine avec des pluies plus marquées, un net renforcement du vent jusqu'à 60 à 80 km à l'heure dans les terres, 110 sur les côtes. Et puis ailleurs, ce sera encore gris avec quelques pluies. La neige remontera vers 900 à 1300 mètres. Vous vous en sortirez mieux en Méditerranée avec du soleil et du vent. Il fera moins froid, seulement quelques gelées encore d'actualité dans l'est et dans le massif central le matin. Et puis l'après-midi, 4 à 9 degrés dans l'est, mais 9 à 14 ailleurs.
Élodie Calac de Météo France, merci.